La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents et des charismes de tant de personnes âgées, déjà retraitées, mais qui sont une richesse à valoriser, a déclaré le Saint-Père lors de l'audience générale du mercredi 11 mai. Voici la retranscription de cette audience générale. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de Judith, une héroïne biblique. La conclusion du livre qui porte son nom, nous en avons entendu un extrait, résume la dernière partie de la vie de cette femme, qui défendit Israël contre ses ennemis. Judith est une jeune et vertueuse veuve juive, qui, grâce à sa foi, sa beauté et son astuce, sauve la ville de Béthulie et le peuple de Judée du siège d'Holoferne, général de Nabucodonosor, roi d'Assyrie, un ennemi puissant et dédaigneux de Dieu. Ainsi, grâce à sa manière rusée d'agir, elle est capable de trancher la gorge du dictateur qui s'en prend au pays. Elle était courageuse, cette femme, mais elle avait la foi. Après la grande aventure dont elle est protagoniste, Judith retourne vivre dans sa ville, Béthulie, où elle vit une belle vieillesse jusqu'à 105 ans. Comme c'est le cas pour de nombreuses personnes, parfois après une vie de travail intense, parfois après une existence aventureuse ou une existence de grand dévouement. L'héroïsme n'est pas seulement celui des grands événements qui tombent sous les feux des projecteurs, par exemple le meurtre du dictateur par Judith. Mais souvent on trouve l'héroïsme dans la ténacité de l'amour vécu dans une famille difficile et en faveur d'une communauté menacée. Judith a vécu plus de 100 ans, une bénédiction particulière. Mais il n'est pas rare aujourd'hui qu'il reste tant d'années à vivre après le moment de la retraite. Comment interpréter, comment tirer le meilleur parti de ce temps dont nous disposons? Je prends ma retraite aujourd'hui, et cela fera de nombreuses années. Et que puis-je faire pendant ces années? Comment puis-je grandir? En âge, cela va sans dire, mais comment puis-je grandir en autorité, en sainteté, en sagesse? La perspective de la retraite coïncide pour beaucoup avec celui d'un repos mérité et désiré après des activités exigeantes et fatigantes. Mais il arrive aussi que la fin du travail soit une source d'inquiétude et soit attendue avec une certaine appréhension. Que vais-je faire maintenant que ma vie va être vidée de tout ce qui l'a remplie pendant si longtemps? C'est la question. Le travail quotidien, c'est aussi un ensemble de relations, la satisfaction de gagner sa vie, l'expérience d'avoir un rôle, une considération méritée, un emploi à temps plein qui dépasse le simple horaire de travail. Bien sûr, il y a l'engagement à la fois joyeux et fatigant de s'occuper des petits-enfants. Et aujourd'hui, les grands-parents ont un rôle très important au sein de la famille pour aider à élever les petits-enfants. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enfants qui naissent et que les parents sont souvent plus éloignés, plus sujets aux déplacements, avec des situations de travail et d'habitation non favorables. Parfois, ils sont aussi plus réticents à confier aux grands-parents des espaces pour l'éducation, ne leur accordant que ceux strictement liés aux besoins d'assistance. Mais quelqu'un me disait, en souriant un peu ironiquement, « Aujourd'hui, les grands-parents, dans cette situation socio-économique, sont devenus plus importants, parce qu'ils ont une pension. » Et ils le pensent. Il y a de nouvelles exigences, même au niveau des relations éducatives et parentales, qui nous obligent à remodeler l'alliance traditionnelle entre les générations. Mais demandons-nous, faisons-nous cet effort de remodèlement? Ou subissons-nous simplement l'inertie des conditions matérielles et économiques? La présence ensemble des générations s'allonge en effet. Cherchons-nous, tous ensemble, de la rendre plus humaine, plus affectueuse, plus juste, dans les nouvelles conditions des sociétés modernes. Pour les grands-parents, une part importante de leur vocation est de soutenir leurs enfants dans l'éducation de leurs petits-enfants. Les petits-enfants apprennent la force de la tendresse et le respect de la fragilité. Des leçons irremplaçables, qui sont plus faciles à transmettre et à recevoir avec les grands-parents. Les grands-parents, quant à eux, apprennent que la tendresse et la fragilité ne sont pas seulement des signes de déclin. Pour les jeunes, ce sont des étapes qui rendent l'avenir humain. Judith est veuve très tôt et n'a pas d'enfant. Mais en tant que femme âgée, elle a pu vivre une saison de plénitude et de sérénité, sachant qu'elle avait vécu pleinement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Pour elle, c'est le temps de laisser le bon héritage de la sagesse, de la tendresse, de dons pour la famille et la communauté. Un héritage du bien, et pas seulement de bien. Lorsque nous pensons à l'héritage, nous pensons parfois au bien, et non au bien qui a été fait dans la vieillesse et qui a été semé. Ce bien qui est le meilleur héritage que nous pouvons laisser. Précisément, dans sa vieillesse, Judith affranchit sa servante préférée. C'est le signe d'un regard attentif et humain envers ceux qui l'ont côtoyée. Cette servante l'avait accompagnée dans cette aventure pour vaincre le dictateur et lui trancher la gorge. En vieillissant, on perd un peu la vue, mais le regard intérieur devient plus pénétrant. On voit avec le cœur. On devient capable de voir les choses qui nous échappaient auparavant. Les personnes âgées savent regarder et savent voir. C'est ainsi. Le Seigneur ne confie pas seulement ses talents aux jeunes et aux forts. Il a des talents pour tous, faits sur mesure pour chacun, également pour les vieux. La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents et des charismes de tant de personnes âgées, déjà retraitées, mais qui sont une richesse à valoriser. Cela exige de la part des personnes âgées elles-mêmes une attention créative et une attention nouvelle, une disponibilité généreuse. Les anciennes compétences de la vie active perdent leur part de contrainte et deviennent des ressources de dons. Enseigner, conseiller, construire, soigner, écouter. De préférence au profit des plus démunis, qui n'ont pas les moyens d'apprendre ou qui sont abandonnés à leur solitude. Judith a libéré sa servante et a couvert tout le monde d'attention. Jeune fille, elle avait gagné l'estime de la communauté par son courage. Dans sa vieillesse, elle l'a méritée pour la tendresse avec laquelle elle a enrichi leur liberté et leur affection. Judith n'est pas une retraitée qui vit son vide de façon mélancolique. C'est une femme âgée passionnée qui remplit de dons le temps que Dieu lui offre. Je vous recommande, prenez un de ces jours la Bible et prenez le livre de Judith. Il est minuscule. Il y a 10 pages, pas plus. Lisez cette histoire d'une femme courageuse qui s'accomplit ainsi, avec tendresse, avec générosité. Une femme à la hauteur. Et je voudrais que toutes nos grands-mères soient ainsi, comme ça. Courageuses, sages, et qu'elles nous laissent en héritage non pas de l'argent, mais l'héritage de la sagesse semée dans leurs petits-enfants. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien, déclare notre Saint-Père le pape François. Suivre le chemin de la sainteté, c'est regarder toujours Jésus dans les autres. C'est ce que notre pape a souligné dans son homélie prononcée à la messe de la canonisation de dix bienheureux. Trois Français, Charles de Foucault, César de Bus et Marie Rivier. Un laïc indien, un carme néerlandais, Tistus Brandsma, et cinq religieux et religieuses italiens. Ce dimanche 15 mai 2022, place Saint-Pierre. Voici ce que nous dit notre Saint-Père. Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples avant de passer de ce monde au Père. Des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétien. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est le testament que le Christ nous a laissé. Le critère fondamental pour discerner si nous sommes vraiment ses disciples ou non. Le commandement de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments essentiels de ce commandement. L'amour de Jésus pour nous, comme je vous ai aimé, et l'amour qu'il nous demande de vivre, aimez-vous les uns les autres. Tout d'abord, comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a-t-il aimé? Jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il prononce ces paroles par une nuit sombre, alors que l'atmosphère du Cénacle est pleine d'émotions et d'inquiétudes. Émotion parce que le Maître est sur le point de dire adieu à ses disciples, et inquiétude parce qu'il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait dans son âme, quelles ténèbres s'amoncelaient dans le cœur des apôtres, et quelle amertume en voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la nuit de la trahison, après avoir reçu la bouchée trempée pour lui par le Maître. Et c'est précisément à l'heure même de la trahison que Jésus confirme son amour pour les siens. Car dans l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel. Dieu nous aime. Cette annonce, frères et sœurs, doit être au centre de la profession et des expressions de notre foi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, nous dit saint Jean. N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité, nos mérites, mais l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu, que nous n'avons pas mérité. Au début de notre être chrétien, il n'y a pas de doctrine ni d'œuvre, mais l'émerveillement de nous découvrir aimés avant toute réponse de notre part. Alors que le monde veut souvent nous convaincre que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie. Nous sommes aimés. Et c'est notre valeur. Nous sommes aimés. Un maître spirituel de notre époque a écrit « Avant même qu'un être humain puisse voir, nous étions vus par les yeux aimants de Dieu. Avant même que quelqu'un nous entende pleurer ou rire, nous étions entendus par notre Dieu, qui est tout écoute pour nous. Avant même que quelqu'un en ce monde nous parle, la voix de l'amour éternel nous parlait déjà. Il nous a aimés le premier. Il nous a attendus. Il nous aime. Il continue de nous aimer. Et c'est notre identité. Aimer de Dieu. Et c'est notre force. Aimer de Dieu. Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons souvent de la sainteté. En insistant parfois trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense. C'est une vision parfois trop pélagienne de la vie, de la sainteté. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible. Nous l'avons séparée de la vie quotidienne, au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète. Et comme le disait Sainte Thérèse d'Avila à ses sœurs, parmi les casseroles de la cuisine. Être disciple de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de l'esprit sur la chair, de la grâce sur les œuvres. Parfois, on donne plus de poids, plus d'importance au moi, à la chair et aux œuvres. Non, c'est le primat de Dieu sur le moi, le primat de l'esprit sur la chair et le primat de la grâce sur les œuvres. L'amour que nous recevons du Seigneur est la force qui transforme notre vie. Il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer. C'est pourquoi Jésus dit, et c'est le deuxième aspect, « Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. » Ce « comme » n'est pas seulement une invitation à imiter l'amour de Jésus. Il signifie que nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a aimés, parce qu'il donne son esprit à nos cœurs, l'esprit de sainteté, l'amour qui nous guérit et qui nous transforme. C'est pourquoi nous pouvons faire des choix et accomplir des gestes d'amour dans chaque situation et avec chaque frère et sœur que nous rencontrons. Parce que nous sommes aimés et que nous avons la force d'aimer. De même que je suis aimé, je peux aimer. Toujours, l'amour que je réalise est uni à celui de Jésus pour moi. Comme ceci. Tout comme il m'a aimé, ainsi je peux aimer. La vie chrétienne est si simple, elle est si simple. Nous la rendons plus compliquée, avec tant de choses, mais elle est si simple. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre cet amour? Avant de nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Après l'avoir annoncé, il s'est livré sur le bois de la croix. Aimer signifie ceci, servir et donner sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en premier, se désintoxiquer des poisons, de la cupidité et de la concurrence. Combattre le cancer de l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité. Partager les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. Se demander concrètement « qu'est-ce que je fais pour les autres ?» C'est aimer et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer. Et puis donner sa vie. Ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose, comme une partie de ses biens, aux autres, mais se donner soi-même. J'aime demander aux gens qui me demandent des conseils. « Dis-moi, tu fais l'aumône ?»« Oui, père, je fais l'aumône aux pauvres. » Et quand tu fais l'aumône, est-ce que tu touches la main de la personne ou jettes-tu l'aumône et tu le fais ainsi pour te nettoyer ? Et ils rougissent. « Non, je ne touche pas. » Lorsque tu fais l'aumône, regardes-tu la personne que tu aides dans les yeux ou regardes-tu ailleurs ? Je ne regarde pas. Toucher et regarder, toucher et regarder la chair du Christ qui souffre dans nos frères et sœurs. C'est très important. C'est cela, donner la vie. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. Es-tu une consacrée ou un consacré? Et ils sont nombreux aujourd'hui ici. Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ou marié? Sois saint et sainte en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur ou une femme qui travaille? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au servir de tes frères et en luttant pour la justice de tes compagnons, pour qu'ils ne restent pas au chômage, pour qu'ils aient toujours le juste salaire. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Dis-moi, as-tu de l'autorité? Et ici, il y a tant de gens qui ont de l'autorité. Je vous demande, as-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. C'est le chemin de la sainteté si simple. Regardez toujours Jésus dans les autres. Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour, c'est le secret. Offrir sans retour, sans chercher la gloire mondaine, nous sommes nous aussi appelés à ça. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière, en embrassant leur vocation avec enthousiasme, comme prêtres, certains comme personnes consacrées, d'autres comme laïcs. Ils se sont dépensés pour l'Évangile. Ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. C'est un saint ou une sainte, un reflet lumineux du Seigneur dans l'histoire. Faisons-le aussi. Le chemin de la sainteté n'est pas fermé. Il est universel. C'est un appel pour nous tous. Il commence par le baptême. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours originale, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis. La photocopie de la sainteté n'existe pas. La sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, celle de chacun de nous. Elle est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous. Il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. Que voulez-vous que je vous dise? Et faites-le avancer avec joie. Merci. En rencontrant les membres de l'association de la famille spirituelle Charles de Foucault, le pape François soulignait qu'en tant qu'Église, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, de ne pas nous perdre parmi tant de choses secondaires, au risque de perdre de vue la pureté simple de l'Évangile. Voici la retranscription. Soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous rencontrer et de partager avec vous la joie de la canonisation du frère Charles. En lui, nous pouvons voir un prophète de notre temps, qui a su mettre en lumière l'aspect essentiel et universel de la foi. L'essentiel en condensant le fait de croire en deux mots simples, dans lesquels il y a tout. Jésus, caritas. Et surtout, en revenant à l'esprit des origines, à l'esprit de Nazareth. Je vous souhaite à vous aussi, comme le frère Charles, de continuer à imaginer Jésus, qui marche au milieu des gens, qui accomplit avec patience un travail difficile, qui vit dans le quotidien d'une famille et d'une ville. Comme le Seigneur est content de voir qu'on l'imite dans la voie de la petitesse, de l'humilité, du partage avec les pauvres. Charles de Foucault, dans le silence de la vie érémitique, dans l'adoration et le service des frères, a écrit que nous sommes amenés à mettre au premier plan les œuvres dont les effets sont visibles et tangibles, tandis que Dieu donne la première place à l'amour, puis au sacrifice inspiré par l'amour et à l'obéissance dérivant de l'amour. Dans sa lettre à Maria de Bondy. En tant qu'Église, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, de ne pas nous perdre parmi tant de choses secondaires, au risque de perdre de vue la pureté simple de l'Évangile. Et puis l'universalité. Le nouveau saint a vécu son identité chrétienne comme frère de tous, à commencer par les plus petits. Il n'avait pas pour objectif de convertir les autres, mais de vivre l'amour gratuit de Dieu, en réalisant l'apostolat de la bonté. Il écrivait ainsi : « Je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me considérer comme leur frère, le frère universel. » Et pour ce faire, il ouvrit les portes de sa maison, afin qu'elle soit un port pour tous, le toit du bon pasteur. Je vous remercie parce que vous continuez ce témoignage qui fait tant de bien, en particulier en un temps où l'on risque de s'enfermer dans les particularismes, d'accroître les distances et de perdre de vue son frère. Nous le voyons malheureusement dans les nouvelles de ce jour. Frère Charles, dans les travaux et dans la pauvreté du désert, racontait « Mon âme est toujours dans la joie. » Chères sœurs et frères, que la Vierge vous donne de conserver et de nourrir la même joie, parce que la joie est le témoignage le plus limpide que nous puissions donner à Jésus en tout lieu et en tout temps. Et de plus, je voudrais remercier Saint Charles de Foucault parce que sa spiritualité m'a fait beaucoup de bien quand j'étudiais la théologie. Un temps de maturation, mais aussi de crise. Elle m'est parvenue à travers le père Paoli et à travers les livres de Voilhomme que je lisais sans cesse. Il m'a beaucoup aidé à vaincre les crises et à trouver un chemin de vie chrétienne plus simple, moins pélagienne, plus proche du Seigneur. Je remercie le saint et je témoigne de cela car il m'a fait beaucoup de bien. Bonne mission. Je vous bénis et vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention. Chers auditeurs, c'était Actualité du Pape. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.